France Culture, les matins d'été, Olivia Gesbert.
Il est presque 7h40 sur France Culture. Tout de suite, le premier invité des matins d'été. Mais d'abord, le thème, l'épilogue d'une histoire à rebondissement. Depuis une semaine, les traitements de Vincent Lambert sont arrêtés en état végétatif depuis 11 ans, victime d'un accident de la route. C'est son médecin, celui qui supervisait les soins, le docteur Sanchez, qui a annoncé l'arrêt suite à la décision de la Cour de cassation cassant celle de la Cour d'appel, ordonnant la reprise des traitements, c'était un mois auparavant. Le 5, les parents de Vincent Lambert ont annoncé qu'ils portaient plainte contre le médecin, puis le 8, qu'ils arrêtaient de se battre pour empêcher sa mort, désormais inéluctable. Entre éthique et pratique, quelle responsabilité des médecins. Bonjour à vous Frédéric Worms.
Bonjour Olivia Gerlin.
Philosophe, producteur de matière à penser sur France Culture, professeur à l'ENS, membre depuis 2013 du Comité Consultatif National d'Éthique. 11 ans Frédéric Worms, c'est une décennie entre la vie et la mort pour Vincent Lambert. Le temps de quoi? Le temps de la prudence?
Moi, je dirais le temps de la procédure pour arriver à une décision aujourd'hui qui n'aurait pas le même sens si elle n'avait pas été précédée par toutes ces démarches juridiques qui, au fond, montrent bien qu'on arrive là à travers des choix difficiles entre des décisions qui, sur le fond, humain, éthique, morale, sont extrêmement difficiles, mais sont extrêmement difficiles aussi, justement, comme vous le disiez, sur l'assignation de la responsabilité, sur le fait de savoir qui décide en fonction de quels avis contradictoires. Et là, en l'occurrence, évidemment, il y a à la fois une situation tragique médicale et une situation de conflit humain. Et c'est ces deux aspects qui ont prolongé. Il faut à la fois, évidemment, une expertise médicale, mais aussi, surtout dans le cas où il y a conflit, arbitrer entre les choix opposés, de personnes opposées, et décider qui doit décider, et c'est ce qui vient de se passer conformément aux lois en France.
Je vous dis le temps de la prudence, vous me répondez le temps de la procédure aussi. Est-ce à dire que c'est une décision de justice, celle d'arrêter les traitements aujourd'hui pour Vincent Lambert, ou c'est une décision médicale des médecins? Qui a pris la décision?
C'est-à-dire la procédure vient compléter la prudence quand il y a conflit. En réalité, la prudence est une vertu morale qui permet de prendre les décisions en connaissance de cause, en mesurant les risques. Ici, par exemple, le seuil au-delà duquel on passe dans le déraisonnable, le seuil de l'irréversible médical. On parlera peut-être de la question de la conscience qui est fondamentale. Est-ce que Vincent Lambert pouvait ou ne pouvait pas revenir à la conscience? Tout ça, c'est le fait des médecins. Ça pondère des décisions médicales. Et en France, justement, pour répondre tout de suite à votre question, c'est le médecin qui prend la décision quand le malade n'est plus en état d'exprimer sa volonté. C'est-à-dire en France, comme vous le savez, le patient, que nous pouvons tous devenir, à tout moment, est en droit d'accepter ou de refuser des traitements. Mais quand il ne peut plus exprimer sa volonté, ce droit se transfère à quelqu'un. Et c'est une des raisons, évidemment, des procédures longues dans ces cas-là. Et en France, quand le patient n'est plus en état d'exprimer sa volonté, ce ne sont pas les personnes de confiance qui décident, elles sont consultées, elles sont fondamentales, de plus en plus fondamentales, mais c'est le médecin. Et au fond, c'est cela qui fait que la prudence se transforme en procédure, surtout quand le médecin, évidemment, prenant une décision, en prenant les avis des proches, et s'il y a conflit, à ce moment-là, il faut une procédure pour arbitrer les choix opposés et les positions opposées des uns et des autres.
Vous dites la conscience, on va aller dessus, Frédéric Worms. La conscience chez Vincent Lambert a disparu, on en parle encore au présent et pas au passé. Elle a disparu, mais son cerveau fonctionne toujours pour essayer d'expliquer. Alors vous qui êtes en plus philosophe et spécialiste de Bergson, qu'est-ce que c'est la conscience dans un cas comme ça? Qu'est-ce qu'on entend par ce mot?
Alors c'est intéressant parce qu'il se trouve que j'ai été associé récemment au congrès de la Société française de soins palliatifs qui portait beaucoup sur la notion de conscience. Et on a beau être philosophe avec des guillemets et d'autres sortes de prudence justement, je pense qu'en réalité aujourd'hui notre réflexion sur la conscience ne vient pas tant de la philosophie a priori que de précisément ces situations difficiles et la neurologie. Mmh. Et il se passe aujourd'hui avec la question de notre conscience, le fait que vous vous sentez être vous-même et moi aussi, plus ou moins ce matin, malgré l'heure matinale, etc. Il se passe quelque chose de fondamental. La science est en train de faire bouger notre rapport à la conscience comme elle a fait bouger autrefois notre rapport à la mémoire, avec par exemple la maladie d'Alzheimer, et puis même notre rapport à la mort. Vous savez que la mort maintenant est définie par le cerveau, la mort est cérébrale, le droit reconnaît la mort cérébrale de telle sorte qu'on peut être mort et avoir des organes qui vivent encore, c'est ce qui permet aussi le transfert d'organes. Une personne est déclarée morte et néanmoins son cœur bat encore et on peut même lui transplanter et sauver la vie de quelqu'un d'autre avec son cœur. Aujourd'hui, il en est un peu de même avec la question de la conscience. Les neurologues définissent la conscience comme la faculté qui suppose des modules cérébraux bien précis de rapporter les états de son corps à soi-même. Donc il peut y avoir par exemple du chaud, du froid sur un corps. Objectivement, on sait que le corps est par exemple plus chaud, plus froid. Mais pour que le sujet, justement, en tout cas pour que la personne puisse le ressentir, il faut cette faculté de dire j'ai froid ou j'ai chaud. Ou minimalement, il y a dans le cerveau des aires qui sont activées et qui permettent de dire le sujet est conscient ou pas. Dans le cas de Vincent Lambert, les neurologues montrent clairement que selon cette définition-là de la conscience, il n'en est plus capable de manière irréversible. Il ne peut plus accéder à cette conscience-là. Il n'a plus de rapport aux états de son corps. Il n'a plus... Voilà. Et donc, on peut définir la conscience philosophiquement de beaucoup de façons. Mais en réalité, il me semble que quelque chose-là est en train de bouger. Son corps est encore en effet en activité. Même son cerveau est vivant. Donc, il n'est pas en état de mort cérébrale. Et pourtant, il ne peut plus rien rapporter à lui-même. On peut dire en un certain sens, mais c'est des formules évidemment très délicates, qu'il est vivant, mais qu'il ne s'agit plus de sa vie. Il ne peut plus expérimenter quoi que ce soit en le rapportant à lui-même. Et c'est quelque chose de très important parce que, au fond, la conscience n'est plus une faculté secondaire, c'est la capacité même de vivre sa vie. C'est la question de la vie qui est posée.
On a avec nous par téléphone Frédéric Worms, un médecin, Jean-Marie Gomas, président du comité scientifique de la SFAP, la Société française des soins palliatifs et chef de projet dans ses démarches palliatives à l'HAD de Santé Service. Bonjour Jean-Marie Gomas.
Oui, bonjour.
Bonjour. Comprendre avec vous ce qui se joue actuellement dans l'affaire Vincent Lambert et au-delà, peut-être une décision qu'il va falloir expliquer en deux temps, à la fois la décision d'arrêter les traitements pour le médecin, puis l'accompagnement, c'est-à-dire comment ça va se passer en pratique. On interroge ensemble ce matin la pratique des médecins entre éthique et responsabilité. C'est un acte médical, la décision d'arrêter le traitement, mais pas seulement. Est-ce qu'on peut dire aujourd'hui que le médecin a le droit, la possibilité de donner la mort, de prendre la vie ?
Alors, donner la mort, prendre la vie, c'est justement une expression que nous n'aimons pas tout à fait. Parce que on voit bien là, et je partage tout à fait ce que M. Worms vient de dire, on voit à quel point dans notre société contemporaine, les mots du législateur sont venus différents des mots du clinicien, du soignant. C'est cette espèce de lourdeur administrative, de jeu terrifiant, d'appel, contre-appel, etc., de distance par rapport à ce pauvre sujet. On s'accommode mal, je trouve, du prendre soin dans cette froideur juridique. Le prendre soin, c'est tellement singulier, cette idée de la singularité, c'est tellement fondamentalement centré sur l'humain. Et les mots qui viennent d'être dits sur la conscience montrent bien toute la difficulté de ces patients cérébro-lésés. Je ne veux pas parler directement de Vincent Lambert parce que je n'ai pas été associé au dossier, donc je suis très prudent sur les patients que je n'ai pas vus et examinés, mais en revanche, j'en ai examiné bien d'autres dans ce type de situation, et on voit bien à quel point on est dans du singulier. Notre décision médicale qui relève de notre compétence, et on s'entoure de plus en plus de précautions, c'est une décision médicale forcément multifactorielle, forcément dans la prudence et l'humilité, et peut-être que notre société contemporaine qui a du mal à supporter le tragique, a du mal à supporter la souffrance, a pas du tout envie de cette prudence, de cette humilité, de cette temporalité. C'est un mot qu'on utilise de plus en plus souvent. La temporalité. Comment prendre en compte l'histoire, la souffrance du sujet, parce que cette finitude est incontournable. Ça, c'est vraiment des questions qui se posent à notre société. Vous savez, les soins palliatifs, c'est un choix de société. Qu'est-ce qu'on va faire de notre finitude ?
Oui, et in fine, c'est quand même le médecin qui va prendre la décision. La décision, éventuellement, d'arrêter les soins. Et du coup, d'arrêter la vie. Alors, il y a aujourd'hui, sans vous remettre précisément...
On n'arrête jamais les soins. On arrête les traitements. Mais on n'arrête jamais les soins. Attention, c'est une confusion qui est faite souvent. Et la loi le dit, Là, la loi nous aide à voir clair. Les soins, c'est le respect de l'autre, l'hygiène, le nursing, la communication, le toucher, la propreté. On n'arrête jamais les soins.
Donc le maintien des soins, c'est aussi ce que vous appelez l'accompagnement. Depuis une semaine, par exemple, même si vous n'êtes pas, vous, directement impliqué, concerné par l'affaire Vincent Lambert et par ce qu'il vit aujourd'hui, quels sont les gestes qui lui sont accordés?
Alors, ça, c'est vraiment crucial. On va jusqu'au bout respecter ce patient qui s'approche de sa finitude. On va donc arrêter les traitements déraisonnables. Et M. Worms a eu des mots très très justes tout à l'heure sur la complexité du déraisonnable, le seuil de l'irréversible. Oui, on a des arguments scientifiques qui nous font penser que beaucoup de patients cérébro-lésés ne récupéreront jamais. Donc, du coup, il y a plein de choses qui viennent déraisonnables. Donc ça, on va les arrêter puisque c'est déraisonnable. Et ça restera toujours sujet de discussion, bien sûr, et au cas par cas. Mais on va continuer le respect, l'hygiène, le toucher. Puisque le cerveau enregistre encore, mais ne peut plus s'en servir, les sensations, on va continuer à le toucher avec respect, avec prudence. On va continuer à assurer son hygiène. Et ça, c'est le respect de sa dignité jusqu'au bout. C'est vraiment, parce qu'il faut rappeler là à tous nos auditeurs que la dignité n'est pas liée à l'état du corps. Heureusement, la dignité est au-delà de l'état du corps. Et c'est pour ça qu'on va s'occuper de ces patients-là jusqu'au bout dans le respect.
On va écouter les mots du docteur Carrigueur. En juillet 2014, il était chef du service de soins palliatifs à Reims, où était hospitalisé Vincent Lambert. Et il a annoncé peu après qu'il quitterait son service, notamment parce qu'il avait reçu des menaces et qu'il était confronté aussi à la dureté du moment et de la tâche.
Ce combat de respecter ce patient et ce combat en faveur d'une certaine médecine, d'une médecine qui ne s'obstine pas, d'une médecine qui reconnaît ses limites, je ne regrette pas de l'avoir conduit. Donc oui, je suis un défenseur de la vie, mais je suis aussi déontologiquement contre l'acharnement thérapeutique, contre les acharnements tout court. Lorsque le sens de la vie ont atteint leurs limites, eh bien, il faut savoir, la médecine doit reconnaître en humilité de laisser mourir, de laisser partir. La mort n'est pas un échec, n'est pas un échec médical. La mort fait partie de la vie. Et tout médecin qui ne reconnaît pas ça est forcément dangereux pour ses pairs.
À l'instant, Jean-Marie Gomas parlait de ce tiraillement du médecin Frédéric Worms avec douceur, presque avec rondeur. Mais on entend dans le témoignage de ce chef du service de soins palliatifs la dureté de la décision et du choix, la responsabilité qu'il incombe aussi au médecin de décider ce qu'il va apporter à son patient.
Oui, il y a eu des choses très très justes et très importantes qui ont été dites et sur lesquelles je voudrais revenir, sur la question du rôle de la médecine, du traitement, du soin. Il y a une chose sur laquelle je voudrais aussi, c'est le seul point sur lequel j'étais pas entièrement en accord, c'était sur la critique des procédures judiciaires. Pour moi, elles font aussi partie du soin au sens large, c'est-à-dire du soin des humains qui doivent prendre des décisions.
Parce dans qu'elles permettent la discussion.
Elles aussi. Permettent la discussion et finalement elles tournent aussi autour de la question de la dignité et de ce qu'on doit faire pour les personnes qui sont dans cette situation, et pour les proches, et pour finalement nos relations sociales qui tournent, on le voit bien. Pourquoi est-ce qu'il y a tous ces conflits? Pourquoi est-ce qu'on en parle ce matin? C'est parce que c'est des enjeux cruciaux dans lesquels chacun se projette, et finalement, il faut prendre soin aussi de l'image de nous-mêmes dans ces décisions.
Mais je reviens, Frédéric, bien sûr, à ce témoignage. Quand on devient médecin, c'est pour sauver des vies. On peut en revenir au serment d'Hippocrate. Est-ce que dans cette idée de sauver des vies, il faut aussi accepter le fait que dans la vie, la mort en fait partie.
Oui, mais justement, pour ça qu'on peut être choqué aujourd'hui par certains discours qui disent les médecins ont donné la mort et finalement sont mis en accusation du fait de donner la mort. En réalité, la complexité de la situation, la complexité de la loi, la complexité des mesures qui sont là montre bien que, en effet, le rôle de la médecine est avant tout d'éviter la mort et que quand elle n'y arrive pas, elle ne peut pas la donner délibérément, mais simplement en quelque sorte la permettre indirectement pour éviter des souffrances plus grandes. Le rôle de la médecine, c'est d'abord d'éviter la mort, et c'est le traitement des maladies tant qu'elles sont curables qui a ce but. Et quand on ne peut plus éviter la mort, le rôle de la médecine continue et consiste à éviter la souffrance. C'est pour ça que le soin continue au-delà des traitements, et simplement il peut y arriver que dans ce travail d'éviter la souffrance, il y ait des choix à faire, à pondérer, le plus ou le moins de souffrance, qu'est-ce qui devient, et là on peut avoir des soins pour éviter la souffrance, mais qui entraîne l'apparition de la mort. Alors il y a le côté indirect, un peu hypocrite selon certains, et c'est vrai que ça semble être une hypocrisie. Par exemple, on parle aujourd'hui dans la loi elle-même, et c'est le cas hein, de Vincent Lambert et d'autres aujourd'hui en France, ce qu'on appelle des soins qui consistent dans la sédation continue, profonde et continue jusqu'au décès. C'est même déjà devenu, comme en France, toujours un acronyme, le SPCD, sédation profonde et continue jusqu'au décès.
Qui a été rajouté en 2016 à la loi Leonetti.
Voilà, mais vous voyez bien, ouais. Expression, elle porte quelque chose de la contradiction médicale et humaine dans laquelle on est pris. C'est-à-dire qu'on considère que le décès est un effet indirect de quelque chose qui est un soin pour éviter la souffrance, la sédation continue, qui vient garantir que même pour un sujet comme Vincent Lambert, dont on pense, c'est même le fondement du problème, qu'il n'a plus conscience de ses états de son corps, donc en un sens il ne souffre plus, eh bien, même là, on prend toutes les précautions pour être sûr que l'état de son corps, en particulier ces situations si tragiques et irreprésentables pour nous, c'est-à-dire qu'on va arrêter de le nourrir et de l'hydrater, eh bien, que ça n'entraîne pas de souffrance. Et la sédation est là pour dire, on prend soin du fait, on veut prendre toutes les garanties, au-delà même de l'état de son cerveau, pour être sûr qu'il ne ressent pas de souffrance. Et ce soin entraîne indirectement la mort. Donc on ne peut pas aujourd'hui, en France, accuser les médecins de donner la mort, puisqu'au fond, toute la complication, toutes ces années, sont liées au fait de prendre des décisions difficiles, de pondérer la souffrance, sans que jamais la vocation de la médecine soit contredite.
Est-ce que ce choix du médecin, Jean-Marie Gomas, est suffisamment encadré aujourd'hui ? On ne devrait pas, comme l'évoquait Frédéric Vomps, mais c'est pourtant... l'action menée depuis une semaine par les parents de Vincent Lambert suite à la décision du médecin, le docteur Sanchez, d'arrêter les traitements, de mener une nouvelle action en justice contre le médecin qui associe l'arrêt des traitements à un meurtre par préméditation. Est-ce qu'aujourd'hui, pour vous, l'action, la décision du médecin est suffisamment encadrée et donc protégée ?
Oui, on a énormément progressé. D'ailleurs, je ne critique pas directement la justice, grâce à tout l'arsenal juridique auquel nous avons largement participé et contribué à assurer la finesse. Cependant, oui, c'est encadré, mais il ne faut pas imaginer que ça nous empêche de discuter, nous empêche de réfléchir. On sera toujours dans cette singularité. On a quand même fait de grands progrès sur la justification, la canalisation, les arguments. On a maintenant des preuves scientifiques que le patient, jusqu'au bout, garde une espèce de lâcher prise. Et c'est souvent parce qu'il lâche prise qu'il décède enfin, même quand son corps est dans un état tout à fait stupéfiant. Et on a des preuves scientifiques indirectes de ça. Donc on s'en sert pour évaluer, on s'en sert pour être dans beaucoup de prudence. Mais c'est vrai que ça va jamais assez vite pour les gens qui ne supportent plus ce tragique, et ça va toujours trop vite pour ceux qui veulent encore un peu de temps. Et ça, c'est vraiment important qu'on comprenne cette espèce d'humilité. Même si nous avons un encadrement, cela n'empêchera pas la souffrance de la perte d'autrui. Ça, c'est vraiment un des fonds du problème actuel.
Jean-Marie Gomas, quelle formation aujourd'hui dans les écoles, dans l'académie, à ces questions sensibles, éthiques et sensibles ?
Alors là, on se bat depuis des décennies pour que l'université intègre les formations d'éthique et de soins palliatifs dans les cursus. Il n'y en a pas encore suffisamment. Elles ne sont pas appliquées partout de la même manière d'ailleurs. On peut le regretter. On a progressé, on a beaucoup progressé, mais on partait d'un niveau tellement insuffisant de formation qu'on a encore des progrès à faire, ça c'est clair.
Frédéric Vorms, qu'est-ce qu'il faudrait enseigner aux jeunes étudiants en médecine, ceux qui vont prêter serment, ceux qui vont ensuite affronter ce type de situation et avoir des choix à faire, des décisions à prendre ?
Il faut effectivement enseigner toutes les tensions et les contradictions humaines inévitables de l'exercice de la médecine. Il y a des tensions internes au médical. Pondérer par exemple les risques et les bénéfices, comme on dit, de tel ou tel traitement, le type de souffrance, et ça, que ça peut entraîner ou diminuer. Et c'est déjà très important parce que souvent on pense, les médecins avaient évidemment légitimement l'impression qu'il fallait avant tout diminuer lutter contre la maladie, et puis il peut y avoir des effets secondaires, la souffrance n'a pas toujours été prise en compte, aujourd'hui c'est pris en compte. Mais la difficulté, et là c'est vrai que c'est une conversion de l'esprit compliquée, c'est de comprendre qu'il n'y a pas seulement des des contradictions internes au médical, entre risques et bénéfices, plus ou moins de souffrance, mais il y a des contradictions entre l'éthique médicale et d'autres aspects de l'éthique, le consentement libre du patient, l'égalité des citoyens face aux décisions médicales. Progressivement, il va y avoir aussi toutes les questions liées aux nouvelles techniques. Là, on parle de la fin de vie, et on voit bien qu'il y a aussi des révolutions dans la représentation de nous-mêmes. Et donc, les médecins doivent comprendre non seulement les tensions médicales, mais des tensions avec toutes sortes d'autres dimensions de nos vies, l'éthique, mais aussi les représentations de l'humain.
D'après l'affaire Lambert, entre éthique et pratique, la responsabilité des médecins en question ce matin avec notre invité, le philosophe Frédéric Worms. Vous restez avec nous jusqu'à 8h30. Merci à vous, Jean-Marie Gomaz, président du comité scientifique de la Société française des soins palliatifs, d'avoir été avec nous.
France Culture, les matins d'été, Olivia Gesbert.
Et c'est la suite de ces matins d'été avec notre un grand invité aujourd'hui, le philosophe Frédéric Worms, professeur à l'ENS et membre du comité consultatif national d'éthique, producteur, vous le savez aussi, de l'émission Matière à penser sur France Culture. Alors vous avez beaucoup réfléchi, Frédéric Worms, à la question du soin, à la question de la conscience, voilà qui vous met un peu au croisement, à la croisée de tout ce qui peut se lever, se poser comme enjeu aujourd'hui autour de cette affaire Lambert. Les médecins face à la fin de vie. Une question d'ailleurs, est-ce que cette question de la fin de vie sera aussi au cœur de la prochaine loi de bioéthique ?
Alors en principe, Olivia Gesbert, et merci de votre invitation et de cette discussion, en principe, ça n'était pas spécialement prévu. Il y a une loi de bioéthique, depuis 2004, on l'appelle la loi relative à la bioéthique, mais elle n'a jamais finalement intégré tous les sujets de bioéthique. Progressivement, elle en intègre les principes. Et là, en l'occurrence, il y a une loi récente, en 2016, la loi Claeys-Leonetti, qui est au fondement des décisions qui viennent d'être prises concernant le cas de Vincent Lambert. Et cette loi, en tout cas le comité consultatif qui est seulement consultatif national d'éthique, considère qu'il faut mieux la connaître, mieux l'appliquer, mieux la comprendre et pas forcément la corriger à ce stade. Et ça résulte aussi du débat citoyen de l'année 2018 sur la préparation justement de la loi de bioéthique. Donc en principe ça n'est pas spécialement prévu. La révision de la loi tous les 7 ans n'implique pas de revoir tous les sujets et la loi, encore une fois la loi Claeys-Leonetti semble à la majorité des citoyens, je crois, et en tout cas du comité d'éthique, pas nécessairement à revoir. Mais c'est vrai qu'il y a des aspects toujours nouveaux, que cette question de la conscience dont on parlait avec ses aspects médicaux, la question de l'accompagnement de la décision et du sujet de la décision aussi, qui doit la prendre, de tous ces paramètres de la fin de vie, ne cesse de nous interpeller, comme on dit.
Cette question, vous l'évoquiez, qui a été légiférée, fait l'objet d'une loi, c'était la loi Leonetti de 2005, revue et augmentée en 2016. Je vous propose d'écouter les mots de Jean Leonetti qui était à l'origine donc de la première loi à l'Assemblée nationale en janvier 2016 à l'occasion du vote final sur cette proposition de loi créant des nouveaux droits en faveur à la fois des malades et des personnes en fin de vie.
Ce texte est un texte, oui, d'équilibre. Équilibre entre l'autonomie et sur le plan républicain, nous dirions la liberté. Et puis équilibre avec la vulnérabilité, et sur le plan républicain, nous dirions la fraternité. Et cette égalité entre la liberté et la fraternité est bien au cœur de ce texte, dans lequel une autonomie totale donnée aux malades aboutirait à un abandon facile des plus vulnérables, mais la considération de la vulnérabilité sans jamais d'autonomie serait aussi une atteinte à la dignité de la personne.
Avec nous par téléphone, la juriste Valérie Depade, spécialisée dans le domaine de la biomédecine et spécialisée aussi sur ces questions éthiques. Bonjour Valérie Depade.
Bonjour.
On vient d'entendre Jean Leonetti en 2016 évoquer ces nouveaux droits qui ont été ancrés dans la loi donc de 2016. Est-ce qu'il est toujours important de revoir le dispositif, de réfléchir, d'intégrer dans le cadre légal aussi l'évolution des mentalités sur cette question de la fin de vie ?
Certainement, réfléchir toujours. On n'aura jamais fini de réfléchir et il faudra toujours réfléchir. Changer la loi à chaque moment de la réflexion, non. Je pense, comme il a souvent été dit, cette loi est relativement récente. Elle a fait l'objet d'un long travail préparatoire. Il faut déjà la connaître. Il faut former à la fois les médecins et j'ai envie de dire le grand public. Parce que la question des directives anticipées, on s'aperçoit qu'elle est devenue un sujet dans le grand public, enfin que les personnes ont pris conscience de l'existence de cette possibilité au travers de la triste histoire de M. Vincent Lambert. Mmh.
Cette loi qui interdit...
Et donc, il y avait un manque de connaissances.
Cette loi de 2005, hein, la première qui interdit l'acharnement thérapeutique, oui, sans autoriser pour autant l'euthanasie. Voilà, revue en 2016 avec l'ajout notamment de la question de la sédation. Est-ce qu'elle vous semble équilibrée aujourd'hui ?
Équilibrée, je ne sais pas si on peut parler, si on peut atteindre un véritable équilibre dans des questions qui touchent aux confins de la vie. Je pense que cette loi, en tout cas, oui.
On peut y tendre.
Elle protège.
Elle protège qui ?
Elle protège les personnes contre l'obstination déraisonnable et aussi contre une décision qui serait individuelle, puisqu'elle exige une procédure collégiale.
Elle protège les médecins aussi, donc, dans cette décision qu'il leur revient d'arrêter les traitements, c'est cela ?
Oui.
Comment ?
Mais elle protège, je vous dis aussi, les personnes par cette décision collégiale qui fait intervenir via des paramètres qui ne sont pas que médicaux.
C'est une grande responsabilité pour vous qui êtes juriste, hein, Valérie Depade, que celle qui est réservée aux médecins aujourd'hui sur ces questions-là ?
Puisqu'on sait que la procédure est collégiale, mais que la décision, en tout cas théoriquement, est individuelle, donc elle revient à un médecin, bien évidemment. Mettre fin à une vie, enfin, je ne vois pas quelle plus grande responsabilité.
Frédéric Worms, cette question, en fait, la grande question au cœur de tout cela, est-ce qu'elle est morale, éthique ou juridique ?
Elle est forcément les deux à la fois, c'est-à-dire on n'aurait besoin ni de la morale ni du droit s'il n'y avait pas de conflit entre les hommes. Non seulement des décisions difficiles qui engagent des valeurs parfois contradictoires, le respect de la liberté et par exemple le soin et l'évitement de la souffrance peuvent parfois entrer en contradiction, mais il peut aussi y avoir des conflits. Et au moment où il y a conflit, on entre effectivement dans le droit, et c'est pour ça que même si la procédure est collégiale, ce qui est fondamental, in fine, la responsabilité est individuelle, parce qu'il y a la responsabilité, c'est effectivement devant la société, devant le droit. C'est pas seulement le contenu de la décision, mais la personne qui prend la décision que la loi doit définir et encadrer. Et de ce point de vue, je pense que la loi Leonetti-Claeys, en effet, fait les deux. Elle permet de comprendre qui doit décider in fine. En France, donc, c'est le médecin à travers une procédure très profondément collégiale, et puis aussi ce qu'il faut décider. Et on voit bien que là aussi, elle est très précise et elle protège effectivement, jusque dans le cas de Vincent Lambert, la décision, parce qu'elle est très précise sur les exigences de cette décision, et on pourra y revenir.
J'avais quand même juste envie de vous demander en quoi Bergson, dont vous êtes un spécialiste, Frédéric Worms, peut nous éclairer sur ce débat, aussi sur la dimension religieuse qu'il a pu prendre par les convictions des parents de Vincent Lambert. Lui, c'était un juif converti au catholicisme au fil de ses réflexions. Une adhésion morale, hein, disait-il, au catholicisme. Est-ce que sa définition à lui de la morale, de la conscience, du soin peut nous aider à éclairer les enjeux actuels ?
Ah, là, vous me collez un petit peu, mais je vais vous répondre sur deux points. D'abord, sur la question de la conscience. On en a parlé un instant tout à l'heure. Je pense qu'effectivement, pour Bergson, la conscience et la vie sont quasiment synonymes. Et c'est vrai que la conscience, ça veut dire aussi être capable de rapporter à sa place dans le monde des choix entre des actions, des états de notre corps qui sont toujours polarisés, justement, des souffrances ou des plaisirs, des plaisirs ou des peines, des souffrances ou des joies. Et donc la question que se pose Bergson, c'est quand, finalement, indirectement, quand il n'y a plus conscience, est-ce qu'il y a encore pleinement vie ? Alors, le corps peut réagir encore à des stimuli, hein, négatifs ou positifs, et se rétracter, mais la question de la prise de conscience de cette situation, en tout cas chez des vivants humains, passe par le fait de rapporter à soi ces états du corps. Et donc, il pose indirectement cette question, et plus profondément qu'on ne croit, le lien entre la conscience et la vie, ce qui est quelque chose de fondamental. Du côté des choix moraux, je pense qu'effectivement, d'une autre manière que d'autres moralistes, Bergson nous oriente vers l'universel. Il faut que nos choix puissent être valables pour tout le monde. Et la religion ne doit pas devenir une sorte de dogme qui s'applique a priori, mais quelque chose qui puisse parler à tous les hommes. C'est la distinction chez lui entre le clos et l'ouvert. Et dans toutes les religions passe cette distinction. Donc, quelle que soit la religion, Il faut finalement, elle peut devenir la religion des uns contre les autres, fonder des choix a priori, ou bien être s'ouvrir de l'intérieur à tout le monde et rejoindre aussi l'universel de la République. Donc la question, c'est effectivement, dans des choix tragiques, en appeler à ce qui peut nous réunir et non pas nous diviser, d'éviter la guerre, c'est quand même le principe de la vraie religion, et selon Bergson, et je pense d'une manière générale. Et je crois qu'en bioéthique, c'est pareil. Mmh. Le jour où on oppose les gens qui ont une religion et les gens qui n'en ont pas, on transgresse le principe même de la religion ouverte, et de la République aussi, et de la raison, qui est d'éviter la guerre civile. Et il faut être très sérieux sur ce point, car au fond, la priorité, c'est d'éviter la guerre entre les humains.
Valérie Depade, écoutez, le droit sur cette question, quand il n'y a plus conscience, est-ce qu'il y a encore vie? On a eu la réponse de la philosophie, quelle est la réponse du droit?
Faut être prudent, hein.
Oui, le droit emploie d'autres termes, oui. Se place sur un autre terrain qui est celui de l'obstination déraisonnable, c'est-à-dire que l'acharnement thérapeutique qu'on doit tous souhaiter, ça veut dire l'acharnement thérapeutique, c'est simplement de donner tous les soins possibles à une personne. Cet acharnement bascule dans l'obstination déraisonnable lorsque les soins deviennent inutiles, disproportionnés, je reprends les termes de la loi, ou n'ont d'autre objectif que le maintien artificiel de la vie. C'est comme ça que la loi traduit les propos philosophiques. Alors, est-ce que l'obstination déraisonnable implique une absence totale de conscience? Dans l'affaire de Vincent Lambert, de M. Lambert, le débat juridique s'est cristallisé, alors, tout au début sur le respect de la procédure, mais ensuite sur cette notion d'obstination déraisonnable, à laquelle les juristes ne peuvent pas répondre. On peut poser la notion, mais c'est une notion éminemment scientifique, médicale.
L'arrêt des traitements décidé par le médecin qui s'occupait des soins de Vincent Lambert, qui aujourd'hui est contesté en justice par les avocats des parents de Vincent Lambert, avec ce grief de meurtre par préméditation. Est-ce que c'est compréhensible pour vous? Est-ce qu'un médecin aujourd'hui qui décide d'arrêter les traitements d'un patient en fin de vie peut-être se voir accusé de meurtre par préméditation?
Non. Ce qui est compréhensible, c'est le désespoir des parents. Voilà, je vois cette action un peu comme un signe de désespoir. Ce médecin a exécuté une décision médicale qui a été reconnue conforme à la loi par nos plus hautes instances. Donc, voilà, vous comprenez bien qu'on ne peut pas ensuite lui reprocher d'avoir exécuté cette décision.
Vous dites, Frédéric... Merci Valérie Depade. Vous dites, Frédéric Worms, que la confiance que l'on peut porter aujourd'hui dans les institutions, y compris l'institution médicale, est essentielle pour réussir à se projeter dans ces questions. Hein.
Je crois que c'est absolument fondamental, effectivement, de comprendre que on se projette ici dans plusieurs dimensions irreprésentables pour nous. L'arrivée de la mort, l'incapacité d'être conscient et de prendre ses décisions soi-même, et le transfert de cette décision par la loi à des représentants, ça passe par les personnes de confiance, et là les directives anticipées sont fondamentales, non seulement sur le contenu, là aussi, qu'est-ce que je souhaiterais dans telle ou telle situation, mais sur la délégation de la décision à telle ou telle personne dite de confiance, et là on voit que la question de la confiance est fondamentale jusque dans la loi. Et là c'est le médecin qui décide, et je crois qu'effectivement il faut dans la mesure où, comme ça a été dit par Valérie Depade, où les procédures ont été vérifiées, examinées...
Voilà, c'est le médecin avec les tribunaux, pardon, vous l'évoquez en ouverture.
Les médecins avec la loi, avec toute la société, ouais. Je crois qu'effectivement mettre en cause ce principe même si on peut toujours avoir les recours qu'il faut précisément parce que le cas est tragique et porte atteinte à des liens intimes, eh bien je crois qu'avoir confiance dans la personne que la loi désigne, c'est fondamental pour non seulement pour éviter la guerre civile d'ailleurs, mais pour être en paix avec soi-même. Et je crois que le but, c'est aussi une paix intérieure face à ces décisions, et ici les institutions nous protègent intimement. Les institutions ont quelque chose de vital, ce ne sont pas des ajouts arbitraires ou artificiels d'une société qui serait opaque ou barbare. Je crois qu'aussi bien la technique médicale ici que la technique juridique, ça peut paraître très compliqué, mais ce sont des institutions que les humains ont inventées pour vivre en paix, même dans les situations les plus tragiques.
Voilà, et on voit que sur toutes ces questions, il est impossible d'avoir des débats binaires, c'est extrêmement pluriel.
C'est inévitable, c'est inévitable, il y a des débats binaires, mais c'est nécessaire justement de les encadrer, de les limiter, de les dépasser aussi. Et je crois que nos sociétés sont mûres et que c'est un test pour la démocratie. On critique beaucoup la démocratie aujourd'hui. On s'aperçoit qu'en réalité, elle est la seule à pouvoir répondre aux questions les plus vitales des êtres humains.
Merci beaucoup à vous, Frédéric Worms, et merci à Valérie Depatte d'avoir été avec nous par téléphone.